Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 9 de la sainte sourate Humaza. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده
يحسب أن ماله أخلده كلا وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Malheur à tous séducteurs blâmeurs qui amassent une fortune et la dénombrent, comptant que sa fortune l'immortalisera. Non, non, très certainement, il sera certes jeté dans la Hotama. Et qui te dira ce qu'est la Hotama? Le feu de Dieu, allumé, qui monte jusqu'au cœur. Oui, il sera fermé en voûte sur eux, en colonnes étendues.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 13 Esfand, 1401 du calendrier iranien, 4 mars 2023. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Toute attaque militaire contre des installations nucléaires de l'Iran est interdite, a déclaré le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Toute attaque militaire contre des installations nucléaires est interdite, a déclaré le directeur général de l'AIEA. Les exportations d'armes vers le Yémen trompent l'opinion publique avec des allégations mensongères, a annoncé Téhéran. Attaque au poison contre les écolières en Iran. Nouvelle phase de la guerre combinée de l'Occident et de ses spires. C'était les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a réaffirmé que toute attaque militaire contre des installations nucléaires est interdite, répondant aux menaces américaines et israéliennes de cibler les sites nucléaires en Iran. Grossi a fait ses remarques à Téhéran samedi 4 mars, lors d'une conférence de presse conjointe avec le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohammad Eslami, qui a exhorté l'AIEA à aider à instaurer la confiance. Le commentaire politique d'aujourd'hui a été consacré à ce sujet. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a rejeté les allégations américaines et britanniques selon lesquelles le bateau qu'ils auraient saisi en route vers le Yémen contenait des armes iraniennes. Nasser Kanani, pointant du doigt les États-Unis et le Royaume-Uni, a déclaré que ces pays sont eux-mêmes responsables de la mort et de la destruction au Yémen en fournissant des milliards de dollars d'armes à la coalition d'agression menée par l'Arabie saoudite. Fustigeant la politique de fuite en avant de Londres et de Washington, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a indiqué qu'ils ne peuvent pas s'absoudre de ces crimes en accusant les autres. Nasser Kanani a exhorté Londres et Washington à mettre fin à leur opportunisme politique et économique en faveur de la guerre, manière d'assurer leurs intérêts intéressés et de dérober à leurs responsabilités dans le conflit yéménite. Le Royaume-Uni et les États-Unis ont prétendu avoir saisi des armes iraniennes dans le golfe d'Oman fin février. L'Iran a déjà nié et, à plusieurs reprises, a rejeté les accusations occidentales de fournir des armes aux forces de résistance d'Ansarallah qui combattent l'agression saoudienne au Yémen. Le président iranien a blâmé les ennemis du pays pour la récente série d'attaques au poison contre les écoles de filles. Ebrahim Raisi affirme que les empoisonnements en série visent à créer l'insécurité, le chaos et la désillusion dans le pays. Il a ajouté que les empoisonnements en série sont les dernières d'une série de complots ennemis contre l'Iran qui visent toujours à donner une respiration artificielle à des émeutes. Le président a noté que les ministres de l'Intérieur et du Renseignement ont été chargés d'enquêter immédiatement sur les attaques et de contrecarrer le complot ennemi. Des élèves dans un certain nombre de villes, dont la capitale Téhéran, ont subi de légères attaques au poison ces derniers mois. Certains pays occidentaux ont réagi de manière contre-productive à l'incident. Une intervention partiale et hostile qualifiée par Téhéran d'ingérence et dans le cadre d'une guerre hybride lancée contre la République islamique d'Iran. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a également critiqué les commentaires à motivation politique sur les incidents. Nasser Kanani a pointé du doigt l'Allemagne après que la ministre des Affaires étrangères de ce pays a demandé une enquête sur ce qu'elle a qualifié d'incident choquant. Kanani a qualifié la réaction d'hypocrite, faisant référence à la fourniture par l'Allemagne de gaz toxique à l'ancien régime dictatorial de l'Irak pendant la guerre contre l'Iran dans les années 1980. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a fustigé l'appel d'un ministre israélien à rayer la ville palestinienne de Huwara. Il s'adressait au Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies basée à Genève, où il a présenté un rapport au milieu de l'escalade de la violence en Cisjordanie occupée. Il faisait référence aux allégations du ministre israélien des Finances après que des centaines de colons israéliens se soient déchaînés à Huwara et dans les villages voisins au nord de la Cisjordanie. Suite à cette attaque violente, un Palestinien a été tué et au moins 390 blessés dans des attaques, tandis que des dizaines de maisons et de voitures ont été incendiées par des colons. Et enfin, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a rendu une rare visite aux forces russes déployées en Ukraine. Selon le ministère russe de la Défense, Choïgou a inspecté un poste de commandement du district militaire oriental dans la direction sud de Donetsk, où il a décerné des médailles aux forces russes. Sa visite intervient alors que les combats acharnés se poursuivent pour le contrôle de la ville de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine. Les forces russes se sont maintenant rapprochées pour encercler toute la ville. Bakhmout va tomber, craignent les soldats ukrainiens. Les Ukrainiens qui résistent se sont dirigés avec plus de troupes vers la ligne de front. La bataille pour Bakhmout fait rage 24 heures sur 24, affirme un haut responsable militaire ukrainien. Il a qualifié la situation de critique, soulignant la nécessité de fournir plus de munitions à Kiev dans les plus brefs délais. Capturer Bakhmout reste un gain majeur pour la Russie au cours des derniers mois. Sa prise ouvrira la voie à Moscou pour reprendre le contrôle du reste de la région ukrainienne du Donbass. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Dans quelques instants, nous allons vous présenter notre commentaire politique. le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a réaffirmé que toute attaque militaire contre des installations nucléaires est interdite, répondant aux menaces américaines et israéliennes de cibler les sites nucléaires en Iran. Grossi a fait ses remarques à Téhéran samedi 4 mars lors d'une conférence de presse conjointe avec le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohammad Eslami, qui a exhorté l'AIEA à aider à instaurer la confiance. L'administration Biden s'est rapprochée d'Israël ces dernières semaines, menant des exercices militaires conjoints à grande échelle avec le régime de Tel Aviv. Le mois dernier, l'ambassadeur américain en Israël a prétendu que toutes les options sont sur la table contre la République islamique d'Iran et qu'Israël peut et doit faire ce dont il a besoin et nous les soutenons. Il y a deux problèmes à cet égard. Premièrement, les attaques contre les centrales nucléaires sont malheureusement devenues courantes et cela est dû à la guerre en Ukraine. Deuxièmement, ces attaques ont été condamnées lors des conférences publiques de l'agence. Je pense donc que l'attaque contre les installations nucléaires est totalement condamnable et illégale, a expliqué Raphaël Grossi. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique est arrivé vendredi à Téhéran pour des discussions sur le programme nucléaire iranien. Un rapport compilé par l'organisme de surveillance nucléaire de l'Organisation des Nations Unies indique que des particules d'uranium enrichi à près de 84% ont été trouvées dans l'installation nucléaire de Fordo lors d'une inspection le 22 janvier. Raphaël Grossi a indiqué avoir eu des discussions constructives avec des responsables iraniens qui pourraient ouvrir la voie à la relance d'un accord de 2015 visant à ramener les États-Unis à la conformité et à lever les sanctions contre la République islamique d'Iran. En ayant une discussion constructive comme nous en avons maintenant et en concluant de bons accords, comme je suis sûr que nous allons en avoir, nous allons ouvrir la voie à des accords importants, a-t-il réitéré. De son côté, M. Eslami a appelé les autres signataires du plan global d'action conjoint, à savoir la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, ainsi que la Chine et la Russie, à remplir leurs obligations. Trois pays européens et quelques autres pays se concentrent uniquement sur les obligations de l'Iran dans le cadre du plan global d'action conjoint, a-t-il déclaré. Eux aussi, ils ont des obligations qu'ils doivent respecter, a-t-il ajouté. Nous sommes parvenus à un accord avec M. Grossi pour définir notre coopération dans le cadre des garanties, a déclaré le président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. Il a appelé l'Agence internationale de l'énergie atomique à éviter d'être influencé par ceux qui visent à entraver la coopération entre les deux parties. Nous devons être en mesure de résoudre les problèmes de manière confiante et d'empêcher l'entrée et l'infiltration des éléments et des agents dont le but et de perturber une relation normale et professionnelle, a-t-il ajouté. M. Eslami a appelé l'Agence internationale de l'énergie atomique à se préparer à une sorte d'interaction par laquelle l'Agence pourra toujours maintenir ses devoirs envers le programme nucléaire iranien dans le cadre de l'accord des garanties. Il a évoqué les capacités de recherche scientifique et de technologie nucléaire de la République islamique d'Iran, affirmant que le pays est prêt à partager ses réalisations avec d'autres pays.
Bonjour à tous. Le sujet du jour étant la Syrie, la situation syrienne au sein de la Ligue arabe, la venue de différents représentants parlementaires arabes en Syrie pour voir la situation après le terrible tremblement de terre qui a touché la Turquie et la Syrie, mais pas que. C'est le sujet d'aujourd'hui. Tout de suite, je vous propose donc notre reportage et par la suite, nous ferons venir nos deux invités. Tout de suite, donc, le reportage.
Téhéran a déclaré que la récente visite de présidents, de parlements arabes et de hauts législateurs en Syrie était une étape positive vers la solidarité islamique et que le dialogue pouvait résoudre les problèmes de la région. Les récents progrès dans les relations entre les pays arabes et la Syrie, y compris la visite de délégations parlementaires arabes à Damas pour exprimer leur solidarité avec la Syrie à la suite du récent tremblement de terre dévastateur, en plus d'être une approche réaliste, est une étape positive vers la réalité islamique. Tweet ce mardi 28 février, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nassel Kanani. Il a ajouté que les pays de la région seront en mesure de résoudre leurs problèmes par le dialogue et les mécanismes régionaux s'il s'agisse de manière réaliste qu'ils adoptent une position nationale indépendante et qu'ils ne prêtent aucune attention aux exigences des puissances hégémoniques. Les législateurs arabes de haut niveau sont arrivés à Damas dimanche 26 février au milieu des efforts de certains pays, surtout d'Irak, de rétablir l'adhésion de la Syrie à la Ligue arabe. Lors d'une rencontre avec le président Assad, le chef de la diplomatie égyptienne a réaffirmé la solidarité de son pays avec la Syrie et sa volonté de continuer à soutenir les Syriens à la suite du tremblement de terre dévastateur de février. Lors d'une réunion avec les membres de l'Union interparlementaire arabe, plus tard dimanche, le président syrien Bachar Assad a déclaré « La visite de la délégation parlementaire arabe en Syrie a aujourd'hui un sens particulier pour le peuple syrien. Elle signifie le soutien aux Syriens qui sont exposés aux effets négatifs de la guerre terroriste et aux répercussions du tremblement de terre. Selon les derniers chiffres, plus de 50 000 personnes ont été tuées par le tremblement de terre catastrophique qui a frappé la Turquie et la Syrie au début du mois en cours.
Nous revoilà donc sur les plateaux après ce bref reportage. Tout de suite donc la venue de nos invités pour en discuter. Alors notre première invitée, vous la connaissez bien, notre experte Madame Midani qui vit entre Paris et la Syrie. Bonjour Madame Midani.
Bonjour, bonjour à vous, merci de votre invitation, bonjour à votre invité.
Toujours un plaisir de pouvoir avoir votre expertise et merci de le partager avec nous. Madame, deuxième invitée, donc étant notre deuxième invitée qui vient du Liban, en tout cas qui est basée au Liban plutôt, Madame Wada Obola. Bonjour Madame Obola, docteur.
Oui, bonjour à vous.
Merci beaucoup. Donc on a la chance aujourd'hui d'avoir des expertes, puisque ce sont toutes deux des femmes, des expertes qui connaissent bien la région pour y habiter, mais également pour suivre la situation géopolitique. Donc Madame Midani, j'ai envie de commencer par vous, étant donné que vous connaissez bien la situation syrienne, vous-même partageant votre vie entre les deux pays. Dites-nous, alors c'est venu de ces représentants parlementaires, certains présidents donc parlementaires, sont venus en Syrie, sachant que M. Assad, le président donc syrien, avait indiqué qu'il ne ferait pas un pas vers la Ligue arabe tant que ce n'est pas la Ligue arabe qui fait un pas vers la Syrie. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur la situation de cette semaine et la venue, et également le fait que ce soit le président syrien, donc le président Assad, qui soit venu les accueillir?
Effectivement. Alors, bonjour. C'est en réalité, d'abord, je voudrais évoquer quand même ce grave tremblement de terre. C'est un grand séisme dans la région. qui s'est traduit aussi par d'énormes pertes en Syrie, des pertes de vie, des blessés et des pertes de moyens de vie, je dirais, des habitations qui sont tombées sur les gens. Ce séisme a montré deux choses. D'une part, le double standard, je dirais, des pays occidentaux vis-à-vis de la Turquie et vis-à-vis de la Syrie. On a vu dans un premier temps qu'il y avait une énorme activité d'aide à la Turquie et pour la Syrie, il y avait juste nos amis, nos alliés. Et puis, peu à peu, effectivement, l'ouverture ou l'arrivée des aides des pays arabes et maintenant même de certains pays européens comme la Serbie, comme l'Italie, il y en a eu. Donc, c'est quelque chose qui fait chaud au cœur, je dirais, au peuple syrien. Et puis, bien sûr, nos alliés qui se sont dépêchés dès le début, comme l'Iran, la Russie, le Hezbollah ou le Hashd al-Shaabi en Irak, etc. Donc, ce sont nos alliés. Ça aussi, ça a montré à quel point notre alliance est cimentée et elle est de plus en plus cimentée face à ces doubles standards européens. Donc, aujourd'hui, l'arrivée, alors pour répondre à votre question concernant le Parlement arabe, les représentants du Parlement arabe, des hauts fonctionnaires qui sont venus en Syrie, c'est quelque chose qui vient couronner quand même un ensemble un élan qui a toujours existé au sein des pays arabes, au sein des peuples arabes vis-à-vis de la Syrie, qui représente réellement le cœur battant de l'arabité, qui représente effectivement le cœur battant de l'unité arabe et de l'arabisme. Donc, ce n'est pas la première fois qu'ils viennent. En fait, nombreux d'entre eux, ils étaient aussi à nos côtés. Ils venaient me présenter aussi leur solidarité avec le peuple syrien. Maintenant, ce qui est la grande différence, c'est qu'ils ont pu effectivement faire pression sur leur gouvernement, je dirais, et qui ont fini effectivement par envoyer des aides. Et je voudrais saluer quand même les Émirats Arabes Unis qui, dès le premier jour, ont envoyé des aides substantielles à la Syrie. Je dirais que l'élan arabe était là, a dépassé toutes les barrières et tout l'embargo qui a été dépassé par cet élan du cœur, je dirais, et qui montre la solidarité et qui montre aussi que l'esprit arabe n'est pas un esprit qui se soumet aussi au diktat dans les moments où il y a des grands sinistres de ce côté, comme le séisme qui est arrivé. Donc, c'est aussi le sens politique de ce retour, de cette arrivée, je dirais, de toutes ces personnalités politiques. C'est aussi une volonté de briser l'embargo de la Syrie, une volonté de briser le code César, qui n'est pas un code, mais qui est complètement illégal, qui a été mis en place par les Américains. C'est des sanctions unilatérales qui obligent effectivement tout un tas de pays à le suivre, alors que par la peur, parce qu'ils ont peur des États-Unis. Donc, c'est un point qui est très, très important. Tout ceci aussi confirme, je dirais, que la politique, en fait, ou une volonté de renouer avec la Syrie, de reprendre les relations, des relations normal, je dirais, entre frères. Le fait que le président Assad les ait accueillis, bon, c'était une manière aussi de saluer cet effort et de montrer que la Syrie est toujours là pour accueillir aussi les frères et les pays arabes, et que donc ça nous fait effectivement, ça renforce nos positions de résistance et de solidarité.
Merci Madame Midani. Alors notre deuxième invitée, donc Madame Obola, bonjour de nouveau. La situation donc est comme l'a dit Madame Midani, positive, puisqu'on a pu voir un élan de solidarité de la part des pays arabes, un élan de solidarité qui n'a pas pu se voir éventuellement depuis 2011, bon, malheureusement dû à une catastrophe humanitaire importante. Mais il y a une chose qu'on peut entendre de la part de l'expertise à Midani, c'est le fait que la région peut s'entraider. Un discours qui avait souvent été donné par la résistance en disant pourquoi aller chercher ailleurs une aide étrangère qui va vouloir exploiter cette aide et ne pas regarder plutôt vers des pays voisins qui, malgré cette volonté d'exploitation, comme n'importe quel pays, en fait, au moins, il y aura un intérêt pour la région. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à cet élan-là qui est régional et qui pourrait éventuellement donner l'impression que la région veut s'entraider et ne plus aller chercher l'aide extérieure?
La région veut s'entraider, ça veut dire, cela sous-entend qu'il y a une volonté de la part des pays du Golfe et du Moyen-Orient, Jordanie, Liban, Irak, etc., de s'entraider en dehors du parapluie des États-Unis, ce qui n'est pas le cas. Donc, pour être un petit peu plus précise, je dirais que d'abord, il faut rappeler, avant de poursuivre mon idée, c'est que la Syrie fait partie de l'axe de la résistance. C'est un des piliers avec l'Iran, avec la Chine, avec la Russie. Donc, elle a réussi à tenir le coup jusqu'au tremblement de terre, tenir le coup dans le sens où de rester unis, peuple, État et armée, face justement aux sanctions et avant à ce qu'on appelle la guerre universelle contre la Syrie. En fait, le tremblement de terre, je pense, c'était une occasion qui a été bien saisie par les États-Unis et leurs alliés, parce qu'ils sont très professionnels à saisir les occasions. Classer le dossier syrien, c'est-à-dire de clôturer le dossier syrien sans pour autant perdre la face, c'est-à-dire sans que cela puisse nuire à leur image, de ce qui reste à leur image en tant que protecteur des droits de l'homme. Je parle de l'image des États-Unis. Et donc, c'était une occasion pouvoir tenter de trouver une faille et de retourner en arrière concernant les sanctions qui sont imposées contre la Syrie, parce que la Syrie a réussi à saboter le projet qui était projet américano-sioniste dans la région à travers la guerre de transition qui a éclaté en Syrie sous la façade du printemps arabe, qui est un terme occidental et qui a commencé à Deraa et qui s'est vite développé en rébellion armée qui est exécutée par le front Al-Nusra et par Daesh, il faut bien le rappeler. Donc le réchauffement dans les relations syro-arabes était déclenché par le tremblement de terre sous un titre humanitaire soi-disant parce qu'il y avait une pression de la part de l'opinion publique internationale.
Excusez-moi ce que vous voulez dire donc dans ce que vous dites, c'est que les pays arabes cherchaient une bonne raison pour faire leur élan vers la Syrie et que finalement ce séisme leur a sous couvert d'aide humanitaire leur a permis de faire cet élan.
Même pour les États-Unis, c'est-à-dire que bien entendu, le feu vert dont je parle, c'est-à-dire ce feu vert qui a été donné par les États-Unis, s'est traduit sur le terrain par une suspension de l'exécution de la loi César à peu près 160 jours. Suite à cette décision de la part des États-Unis, on a eu la, la première visite officielle du chef de la diplomatie émirati à Damas, comme l'a bien rappelé votre invité. On a ensuite, avant, on a eu la réunion, la, la visite du comité d'amitié libanais qui réunissait plusieurs députés ou représentants des forces politiques libanaises. Ensuite, on a eu la visite du chef de la diplomatie égyptienne. Et il ne faut pas oublier, entre ces visites, il y a eu la visite du président syrien au sultanat d'Oman qui joue le rôle de médiateur dans, dans le rapprochement des relations. Dans le réchauffement des relations, que ce soit entre la Syrie et l'Arabie saoudite ou entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Donc, en fait, c'est, comme je l'ai dit auparavant, c'est une occasion. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qui va se passer après les 160 jours. C'est ça. Mais selon des sources médiatiques et des sources diplomatiques, la visite du chef de la diplomatie égyptienne, qui est la plus importante à mon avis, en fait, marque le, peut-être le prélude d'un retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Et c'est ce qui est important.
Merci, Madame Bola. Alors, Madame Idan, est-ce que vous êtes d'accord par les propos tenus? Je n'aime pas demander qu'est-ce que vous pensez, mais là, étant donné que Madame Bola a présenté des faits un peu différents des vôtres, mais tout en, a, en y rajoutant des informations, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'était, c'est une forme d'excuse que les, la Ligue arabe et les Américains, disons que la Syrie l'ont perdue et que ce, ce séisme, malgré le fait qu'on n'oublie pas que ça reste un système humanitaire extrêmement tendu et difficile, leur a permis en fait de se dire bon ben voilà, on se dégage là pour des raisons humanitaires. Et deuxièmement, est-ce que le fait, comme vient de le conclure Madame Obola, le fait que l'Égypte ait fait un pas en avant laisse entendre que cette fois c'est un réchauffement peut-être qui va se faire sur du long terme?
Effectivement, ça peut être considéré comme un prétexte pour pouvoir reprendre les relations. Alors je pense qu'il faut mettre ça un petit peu dans le contexte international qui marque réellement un changement aussi, un changement de la poigne, je dirais, américaine sur le monde, avec, car depuis, depuis le déclenchement de cette guerre de l'OTAN contre la Russie, il y a des alliances qui se sont faites et que d'autres pôles ont commencé à apparaître, et que le monopolisme, le monopole américain se brise rapidement, là. Rapidement, je peux dire, il se brise graduellement, et en fait, pas mal de pays commencent à se dégager de l'emprise américaine. Notamment, on a vu récemment, par exemple, certaines positions de l'Arabie saoudite, certaines positions des... d'autres pays qui commencent à oser défier, je dirais, cette emprise américaine et donc reviennent à leur propre nature. Et ça, je peux dire effectivement que beaucoup de pays arabes, à la fois sous la pression de leur peuple et à la fois aussi face quand même à la victoire syrienne qui s'impose sur le terrain, qui montre que c'est l'avenir, face aux alliances qui ont été et le soutien international qui a été aussi donné international, je peux dire, la Syrie n'est pas isolée, la Syrie est soutenue par la Russie, elle est soutenue par les pays du BRICS, elle est soutenue par tous les peuples arabes, elle est soutenue par, bien sûr, l'axe de la résistance en premier, tous les pays de l'axe de la résistance. Tout ceci montre que ce sont plutôt les États-Unis qui sont isolés et qui sont de plus en plus isolés, comme les pays de l'OTAN aussi, qui essayent par tous les moyens agressifs de garder leur emprise sur le monde et leur diktat.
Merci, donc, Madame Idani.
C'est lié effectivement à cette situation internationale et que par pragmatisme et par aussi élan de solidarité des peuples, les pays arabes reviennent, ou certains qui étaient contre la Syrie et même ennemis de la Syrie, qui reviennent à la Syrie dans cette phase.
Merci, Mme Milani. Mme Obola, alors vous êtes vous-même au Liban, si je ne me trompe pas. La situation au Liban également a été extrêmement difficile à cause des Américains, à cause de l'influence des lobbies, du lobbying, si j'ai envie de dire, et de l'instabilité politique qui règne à cause, encore une fois, des effets de ce lobbying au Liban. Est-ce que, du fait que, de ce que vient de dire Mme Milani, donc le pouvoir américain, sa propagation de pouvoir est devenue moindre, notamment quand on pense au front ukrainien, et là, le front taïwanais commence à se dessiner également. Est-ce que vous voyez, vous percevez, vous, au Liban également, cette manque de présence américaine et le fait qu'elle se retire petit à petit? Vous le ressentez?
Alors, pour ce qui est du Liban, c'est un petit peu plus compliqué. La différence entre le Liban et la Syrie, c'est qu'en Syrie, ce n'est pas un régime confessionnel. La Syrie, c'est un pays véritablement qui n'a pas de problème avec son identité arabe. Rien que par la langue, et je suis sûre que votre invité va me soutenir, la langue arabe est très importante dans les universités. Même tout ce qui est science occidentale, entre guillemets occidentale, c'est-à-dire tout ce qui est des sources qui viennent de l'extérieur, elles sont traduites, ils sont enseignés en arabe. Alors qu'au Liban, c'est très différent. Le Liban, c'est une mosaïque de confessions. Donc, c'est un pays multiconfessionnel. Et qui dit multiconfessionnel, malheureusement, il n'y a pas eu une conscience politique au niveau de la population pour créer une nation. La Syrie est une nation, l'Iran est une nation, la Turquie est une nation. Ils partagent une expérience en tant qu'ex-empire. Le Liban, ce n'est pas le cas. Donc, le Liban est très facilement... ça a été une énorme facilité qui peut avoir une ingérence de la part des forces étrangères, en particulier de la part des États-Unis, pour la simple raison, c'est que chaque force politique se voit obligée, entre guillemets obligée, parce qu'elle n'a pas les moyens de se défendre à l'intérieur. D'ailleurs, on est en train de voir que tout le système, tout ce qui s'appelle institution étatique est en train de s'effondrer. Il n'y a encore que l'institution militaire qui reçoit de l'aide, en fait, des États-Unis, mais même le pouvoir judiciaire s'est complètement effondré. Donc la situation est très différente. Et malheureusement, pour vous donner encore un exemple, c'est que, je voudrais souligner quelque chose dont votre invité a parlé, c'est le pragmatisme dont fait preuve actuellement les pays du Golfe et les pays arabes. Effectivement, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et ce pragmatisme, oui, il risque de peut-être donner une solution au dossier libanais, dans le sens où s'il y a une entente au niveau régional entre les différents pays arabes, que ce soit la Syrie, que ce soit l'Arabie Saoudite, l'Égypte, etc., à ce moment-là, oui, le Liban pourrait bénéficier de cette entente. Alors que la Syrie, c'est tout à fait le contraire. C'est elle qui impose justement une entente. Ce sont les pays occidentaux, même les États-Unis, qui cherchent justement une entente avec la Syrie et non le contraire, comme c'est le cas au Liban.
Oui, vous parlez notamment quand il y a eu la réunion de la Ligue arabe en Algérie à Alger, où on espérait peut-être voir Assad, et Assad a bien laissé entendre que c'était d'abord à la Ligue arabe de faire un signe vers lui. Donc ça montre une situation de pouvoir. C'est de ça que vous mentionnez, c'est-à-dire quand vous parlez de la situation de la Syrie et de Assad au sein de la Ligue arabe.
Exactement, la Syrie est tout à fait différente. On ne peut pas comparer les deux situations. Maintenant, ce qui est pour le Liban, par exemple, là, on a un problème au niveau de la présidentielle, on n'a pas de président. On va avoir bientôt une vacance au niveau du gouverneur de la Banque centrale d'ici quelques mois. Si jamais il n'y a pas un substitut ou il n'y a pas une entente interne au niveau de la nomination du gouverneur de la Banque centrale, mais tout le pays, je ne dirais pas, est menacé d'une guerre civile, mais est menacé d'une ce qu'on appelle un chaos civil. Malheureusement, le Liban, pour qu'il puisse se redresser, à chaque crise, il faut du sang pour forcer les forces politiques à se retrouver autour d'une table. Et c'est toujours sous le parrainage, parfois de la Syrie, parfois de la Syrie et de l'Arabie Saoudite, parfois de tous les pays arabes, et aussi de la France et des États-Unis, malheureusement.
Merci. Merci, Madame Rada Obola. Merci, Madame Midani. Tous deux, donc, on a eu la chance aujourd'hui d'avoir deux experts qui vivent directement dans ces pays, qui peuvent donc suivre la situation, les tensions politiques au sein du pays, sans que ce soit des... Qu'est-ce qu'on dit ? En tout cas, moi, c'est ici que je mets fin à ce débat, qu'on pourrait encore parler longuement. Je vous propose un autre débat dans les prochains jours. Je vous dis à bientôt, donc. Au revoir.
La persistance d'une forte inflation secoue les marchés. Malgré une hausse de la croissance mondiale attendue à 2% en 2023, bien des incertitudes demeurent en ce début d'année, selon Jacques Chahine, président du groupe JAJ. La dernière lettre de fin décembre, les marchés financiers devraient rebondir en 2023, c'est confirmé plus vite qu'on le pensait, l'indice SP500 passant de 3852 points à un plus haut de 4180 points. Des statistiques d'inflation encourageantes sur novembre et décembre ont donné l'espoir que la Fed allait ralentir sa cadence de hausse des taux. Le marché obligataire a fortement réagi à ces nouvelles, faisant passer l'emprunt d'État à 10 ans de 4% à 3,5%, entraînant avec lui le marché actions qui a affiché une hausse maximum de 9% en 2023 et dépassant l'objectif de cours de 4160 points qu'on a pour fin 2023. Mais l'euphorie était de courte durée. Et le marché a été touché par des statistiques de l'emploi très robustes et une inflation en janvier qui a montré qu'elle était loin d'être jugulée. Et le marché s'est à nouveau inversé. Les taux longs sont repassés vers les 4%, les taux plus courts dépassant les 5%, signe que la Fed n'avait pas encore fini de faire son job de ramener l'inflation à 2%. Un discours plus agressif des membres de la Fed qui prévoit la poursuite des hausses de taux et leur maintien à ce niveau a longtemps découragé les marchés. La courbe de l'indice SP500 montre que depuis deux ans, on vit un yo-yo entre espoir et désespoir sur la fin du cycle de hausse des taux. Les taux longs ont un impact énorme sur les marchés et selon les calculs du groupe JAJ, un demi-point a un impact de 7,5%. Le marché n'agit pas souvent en temps réel aux variations de taux. Par exemple, le 15 février, le marché était à 4148 points alors que les taux longs affichaient 3,81%, donnant l'occasion à un trader averti de se couvrir. La Fed continue de naviguer à vue au gré des statistiques mensuelles sur la marche de l'économie. Les nouvelles créations d'emplois en janvier ont énormément surpris par leur vigueur avec 517 000 nouveaux emplois créés contre une moyenne trimestrielle de 357 000, elle-même trop robuste. Le taux de chômage reste à son plus bas historique alors que l'économie continue d'être robuste. L'indice d'inflation PCE affiche une hausse en janvier de 0,6%, soit 7,2% en rythme annuel, et a mis le feu aux poudres. Du coup, les anticipations d'inflation moyenne sur 10 ans ont grimpé de 0,3% et 0,5% pour les 5 prochaines années. Le niveau anticipé reste néanmoins très acceptable avec 2,5% en moyenne. La courbe des taux s'est rapidement ajustée et on attend maintenant trois hausses de 0,25% de la Fed qui devrait porter son taux de référence à 0,25-5,50%. La Fed est même prête à provoquer une récession pour atteindre ses objectifs d'inflation. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le spread de taux entre la Fed et l'octroi de crédit aux sociétés solvables est très élevé, entre 300 et 400 BPS. Ainsi, beaucoup de crédits à taux variable, la plupart du temps, vont devoir payer au pic des taux entre 8 et 9%, alors que les sociétés fragiles peuvent monter à 15% plus. Il y a un moment où la corde risque de rompre, entraînant une cascade de faillites, une récession en bonne et due forme. Après une hausse du 3% du PIB mondial en 2022, le consensus des économistes attend une hausse de 2% cette année, provenant quasi exclusivement de l'Asie et de la Chine. Malgré la guerre en Ukraine, l'inflation et les difficultés d'approvisionnement, 2022 aura vu une croissance décente de 3% en ligne avec les années pré-Covid. L'économie ne demande qu'à partir de l'avant. Mais l'inflation, les difficultés d'approvisionnement et les goulots d'étranglement sur le marché de l'emploi partout dans le monde freinent la reprise. Par exemple, le marché automobile reste très en dessous de ses niveaux d'avant Covid, faute d'approvisionnement qui ont fait flamber les prix. La demande de logement reste partout insatisfaite. Une récession permet d'éliminer les tensions sur les prix et faire repartir la machine économique sur des bases plus saines. Avec le ralentissement économique et une inflation galopante, les sociétés ont du mal à conserver leurs marges bénéficiaires. Le problème se pose d'ailleurs en Europe, où malgré une inflation qui atteint 7%, excluant l'alimentation et l'énergie, l'emprunt d'État allemand à 2 ans reste à 3% contre 4,8% aux États-Unis, avec une inflation plus faible. Les résultats finaux du quatrième trimestre US et ceux de l'année 2022 ont été décevants et constamment revus à la baisse pour terminer en baisse de 3,2% sur un an, mais 7,4% de baisse si on élimine les bénéfices garantuesques des sociétés pétrolières. Sur l'année, la hausse de profit est à plus 4,4%, mais négative hors énergie. Dans la foulée des parutions quatrième trimestre, la révision a été saignante pour le premier trimestre 2023. Une amputation de 7,5% par rapport aux attentes et une baisse de 5% par rapport à l'an dernier. Pour l'ensemble de cette année, le consensus attend une hausse d'1% qui se transformera en une baisse de 3,2%. La contribution des sociétés pétrolières restant encore positive. La baisse pourrait être beaucoup plus violente si la suite des événements se transformerait en une récession sérieuse. La baisse pourrait être beaucoup plus violente si la suite des événements se transformait en une récession sérieuse. L'espoir est que la Fed passe à travers le chemin semé d'embûches pour juguler l'inflation sans provoquer une récession incontrôlée. Le marché reste relativement cher, à quasi 18 fois les résultats 2023 et un dividende de 1,8%. Malheureusement, la hausse significative des taux récentes impacte fortement la valorisation. Le marché a réagi à ces taux et a fortement corrigé, réduisant la hausse du SP500 à 3,4% contre un taux de 9%. L'indice MSCI Monde affiche 4,8% depuis le début de l'année et la zone euro résiste très bien avec une hausse de 10,2%. On assiste à un retour en force des GAFAM après une année 2022 désastreuse. Par contre, l'énergie et la santé, fin de l'aubaine Covid, sont dans le rouge. Ces trends sectoriels de début d'année s'amplifient par la suite. Mais le marché reste volatile et dépend des statistiques qui peuvent surprendre dans les deux sens. L'action de la Fed n'est pas non plus une ligne droite, comme on l'a vu dans le passé récent. On préfère s'abstenir pour le moment et surveiller de près l'inflation et les taux. Une tension additionnelle inciterait à rester en investissement obligatoire, alors qu'un retour des taux longs vers le 3,5% et un marché vers les 3800 inciterait à l'achat.